L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. Une émission à table, comme c'est souvent le cas. On s'installe pour déguster avec les oreilles et avec nos partenaires. Cette fois, c'est l'association 4 Quarts qu'on retrouve une fois par trimestre sur Radio Évasion. 4 Quarts est une association qui s'intéresse au bien manger, au bien boire, à l'alimentation dans toutes ses dimensions, gourmande bien sûr, mais aussi sociale, historique, économique, anthropologique, écologique et en lien avec notre santé également. Ce sera peut-être plutôt cet aspect qui va concerner notre émission du jour. Quoique, aujourd'hui, Françoise Doucet, l'ingénieure en agroalimentaire de 4 Quarts, aussi fine cuisinière, nous propose de creuser le sans gluten. À ses côtés, il y a aussi Pascal Osier, membre de l'association 4 Quarts, qui va jouer la mouche du coche.
Absolument.
Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Françoise, je suppose que c'est vous qui nous dites qu'est-ce que le gluten ? Ah. Non mais on va commencer par définir le sujet, soyons logiques.
Bon, le gluten, c'est la protéine des céréales. Voilà. Bon. Donc les céréales, c'est le blé, l'épeautre, le seigle, l'orge, l'avoine. Donc là, on définit les céréales comme ça. Le gluten donc est composé. Alors on dit le gluten, c'est un nom générique hein, pour qui. Donc du coup, c'est les gliadines et les gluténines qui forment le gluten. Donc tout ça, ce sont des protéines non solubles, voilà, présentes dans le blé.
Bon, qui sont a priori comestibles, on va dire.
Bien sûr, et qui donnent des propriétés particulières en fait au blé.
Pourquoi est-ce qu'on parle autant du gluten depuis quelques années ?
Alors, on en parle, c'est vrai. Pourquoi en parle-t-on autant ? Il y a une réglementation déjà qui est passée en 2011 par rapport aux allergiques. Bon, ça c'est un choc allergique. Il y a à peu près, alors les chiffres divergent un peu, hein, 2 à 4% de la population, c'est mortel, qui sont allergiques au gluten. Donc il y a une réaction immunitaire forte. Et en fait, œdème de Quick et paf.
Ah oui, carrément.
Et paf. Donc ça rien à voir avec.
On peut le savoir à l'avance qu'on est allergique.
Non, on le sait. Non, ça peut venir d'un coup ça peut disparaître aussi. Donc, ça n'a rien à voir avec la maladie cœliaque dont on va parler après. Mais différents degrés. Hein, on n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'à l'œdème de Quick. Mais des démangeaisons, de l'urticaire, le nez qui coule, les yeux qui pleurent, des plaques. Mais au pire, après, ça gonfle au niveau des voies respiratoires. Et ça étouffe et c'est mortel.
Et il y a des tests qui permettent vraiment d'identifier que c'est au gluten qu'on est allergique.
Alors après, oui, je pense qu'au niveau du corps médical, oui, il y a des tests, et probablement. Après, moi, je ne suis pas la spécialiste du test.
Françoise n'est pas médecin.
Je ne suis pas médecin. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la réglementation, en fait, c'est qu'un des 14 allergènes à déclaration obligatoire. Donc, il y a le gluten, mais il y a plein... Y a, alors, du coup,
ah oui, sur la liste des ingrédients.
Sur la liste des ingrédients, oui. On est obligé de les faire apparaître en gras, ou en grand caractère, ou en surligné. Peu importe, il y a une obligation de résultat et pas de moyens.
Mais dans les boutiques où il n'y a pas d'emballage, on emporte...
Du coup, la réglementation a évolué. Il faut aussi que ça soit visible, sans même que le consommateur ait à demander l'info. Et donc du coup sur du vrac, on a besoin de cette information là quand on est chez un restaurateur aussi sur le plat du jour ou sur le plat à la carte. S'il y a une sauce à base de gluten, il faut que ça apparaisse sur une carte spécifique à part. Donc au même titre que par rapport au risque allergique, on connaît les autres, enfin voilà, les œufs, les crustacés, les mollusques, le poisson, les fruits à coque, le céleri, le soja, enfin voilà. Mais cette volonté est, donc il existe pour donc faut faire attention au niveau industriel sur les lignes de fabrication de pas se faire croiser en fait donc l'ensachage de la farine et de blé avec l'ensachage de la farine par exemple de sarrasin. Un avec gluten, l'autre sans gluten.
Et si on s'est mis à parler du gluten aussi, c'est parce qu'il est un peu partout. Enfin, on se rend compte, quand on lit les étiquettes, en fait, qu'il est presque partout. C'est ça.
Et oui, il est un peu caché. Hein. Dans les sauces, bah oui, il peut y en avoir. Enfin, oui, il est caché dans des plats cuisinés aussi. Il peut même y en avoir un peu dans les charcuteries. Donc ça, c'est étonnant. On se dit, oui, je vais prendre un peu de saucisson, un peu de machin. Eh ben non, il y en a. Alors ça c'est pour la partie pourquoi est-ce qu'on en parle autant pour répondre à votre question, c'est sur la partie allergie alimentaire. Mm-hmm. Donc il y a aussi, et là c'est plutôt confidentiel, c'est 1 ou 2% de la population, mais là c'est une maladie grave qui est la maladie cœliaque. Donc c'est une maladie donc du coup qui est très chronique, qui est très systémique et qui est inflammatoire. Et du coup là, pour faire simple, parce que encore une fois, je suis pas médecin, mais c'est l'intestin qui devient imperméable. Et donc, du coup, sur l'intestin, on a plein de villosités et les villosités qui vont permettre une bonne absorption de tous les nutriments. Et c'est cette absorption-là qui se fait mal ou qui se fait moins.
Donc, on perd du poids en fait.
On perd du poids.
On n'absorbe pas bien les autres aliments, quoi.
C'est ça. Et puis, il peut y avoir des carences.
Et donc, les malades cœliaques, eux, c'est pareil, ils doivent consommer aucun gluten.
Alors, eux, par contre, c'est une éviction stricte.
Pourquoi ? Parce que les allergiques pourraient consommer un petit peu des traces de gluten.
Ah bah, ça dépend du niveau d'allergie de chacun. Donc là, il y a une variabilité interpersonnelle qui est forte, quoi.
Ok. Et on entend parler aussi d'intolérance. Alors, ça, c'est quoi l'intolérance ? C'est beaucoup plus flou, en fait, scientifiquement, j'imagine.
Alors du coup, plutôt d'hypersensible.
Ah oui,
c'est
d'accord.
Plutôt, okay. Du coup, d'un point de vue, c'est plutôt hypersensible au gluten, mais qui n'est pas cœliaque, non plus, et qui n'est pas allergique non plus. Donc, c'est encore autre chose. Là, c'est plutôt une gêne, des ballonnements, des lourdeurs d'estomac, des troubles digestifs.
Mais ça doit être plus difficile à déterminer aussi, médicalement, quoi.
C'est plus compliqué. Mmh. C'est plus compliqué. Donc là, du coup, ce n'est pas forcément une éviction stricte. Du gluten présent dans les céréales.
Et pourquoi est-ce qu'on en met partout ? Enfin, quels sont les intérêts du gluten pour l'industrie agroalimentaire ?
Là, oui, j'y viens. Et puis, il y a aussi l'effet mode. Hein. Il y a aussi
un régime.
Comme les régimes.
Comme les régimes.
Oui. C'est quoi ?
L'effet mode.
Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est je surfe sur la vague du sang, par exemple, du sang, alors sans gluten, sans lactose, sans machin, mais je vais faire ça 3 mois pour me faire plaisir, je vais voir ce que ça donne, et puis...
Oui, ça, on fait apparaître un effet bénéfique.
Ou pas.
Et puis c'est tout, en espérant que ça marche, donc ça fait travailler l'industrie aussi, peut-être.
D'accord. Et donc l'industrie utilise beaucoup le gluten pour des raisons aussi physico-chimiques, on va dire. Voilà. Alors à quoi ça sert le gluten concrètement pour l'industrie ?
Les gluten sont en lien. Enfin, disons que pour l'industrie, enfin comme pour le boulanger, hein, quand on travaille sur le blé, on va regarder la force, la valeur boulangère. La valeur boulangère, et cette valeur boulangère dépend, alors c'est un peu technique, mais je vais juste les donner, de la force de la farine, qui va avoir un impact direct sur le gonflement et sur la résistance à l'étirement des pâtes. Donc c'est en lien direct avec la rhéologie, donc avec la façon dont une pâte va se comporter au moment de la fermentation. Et donc, ça va induire différents types de gonflement, différents types d'alvéolage par rapport à la texture des mies derrière. Ça va induire
ça va faire des mies rétention. Quoi, plutôt des mies légères ou plutôt compactes ou
Alors, il y a plein de critères. Il y a plein de critères. Je ne veux pas être trop technique, mais du coup, ça va induire aussi, ça va avoir un impact sur la fixation de l'eau et donc, du coup, sur les notions de racinement ou pas. Ça peut avoir un. Enfin voilà, ça va impacter directement tous ces facteurs-là.
Donc, ça, c'est pour le pain. Ouais, mais sinon, il y a peut-être d'autres avantages, si on le met dans les sauces et tout ça. Ouais.
C'est pour le pain, mais alors il y a quelque chose qui me paraît important de dire aussi, c'est que, en fonction... la valeur boulangère, ça dépend de la force de la farine et de la quantité de protéines. En fonction du type de pain, c'est-à-dire un pain au levain, par exemple, comment je vais vous dire ça ? Un pain au levain, le levain va prédigérer les gluten. Et donc, du coup, on va avoir une meilleure assimilation par l'organisme. Contrairement à un pain blanc, où le pain blanc, où on met donc du coup de la levure, et là, il n'y aura pas une prédigestion avant des gluten. Et donc, du coup, en termes d'assimilation par l'organisme, un pain qui dans tous les cas a du gluten sera beaucoup mieux assimilé par l'organisme selon qu'il est au levain ou selon qu'il est à la farine, à la levure.
Bien, mais pour les allergiques ou les cœliaques, ça ne change pas grand-chose.
Pour les cœliaques, ouais. Ça ne change rien. De toute façon, ils ne mangeront pas du pain de blé, du pain avec de la farine de blé.
Et pour l'allergie, ça pourrait la réduire éventuellement, n'est-ce pas, le levain ?
On peut se poser ce type de questions. Oui, ça peut être en tout cas une piste. Ça peut être une piste. Et après, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que pour l'industrie, vous me parliez de l'industrie, il y a avant-guerre, on était sur des blés anciens qui étaient beaucoup plus petits, qui étaient plus fragiles aux intempéries, qui étaient plus facilement mangés par les lièvres, les oiseaux, qui avaient, avec des rendements assez faibles. Et ces blés, ils étaient moins élastiques, donc ils avaient moins de force. Donc ils avaient moins de capacité de gonflement, de résistance.
Ils avaient
moins de gluten. Donc leur valeur boulangère était plus faible. Et on a croisé, en fait, après-guerre, alors, rien à voir avec les OGM. Dans les blés actuels, il n'y a pas,
naturel,
quoi. Y a pas d'OGM. Hein. Mais du coup, on a croisé pour sélectionner des blés avec un meilleur rendement agronomique, donc plus riche en gluten aussi. Mais du coup, ils peuvent être, pour certains, moins digestes. Et tout ça, c'est pour obtenir des farines de force et des farines, entre guillemets, qui soient plus panifiables.
Mais en plus, les industriels peuvent rajouter du gluten artificiel, c'est ça ?
Alors, c'est intéressant de revenir là-dessus. Alors, il n'est pas artificiel, le gluten. Hein,
Il est extrait de blé.
Il est extrait, il n'est pas artificiel. Mais par contre, comme c'est une partie du blé, donc c'est la protéine insoluble du blé, le gluten, il n'est pas considéré comme additif non plus.
Ah oui, oui, d'accord, et puisqu'il est dans le blé de toute façon.
Ouais,
Mais
on en met quand même en
plus.
Pourquoi pour le rendre encore, pour standardiser les productions en fonction des aléas variétaux, en lien avec les variétés, en lien avec. C'est technique, hein, la fabrication, c'est technique, hein, puisque le pain, c'est une fermentation, c'est technique. Mais par contre, en plus, des protéines dans le pain blanc, hein, parce qu'on rajoute du gluten dans le pain blanc, mais on ne rajoute pas de gluten dans le pain au levain, d'où l'intérêt de manger du pain au levain.
Oui, bien sûr.
Mais en plus, dans le pain blanc, en plus de rajouter du gluten, on rajoute en plus un améliorant. Et l'améliorant, c'est pour un anti-cloque, c'est pour par rapport au fait que ça va moins rassir. Mais c'est cet améliorant qui est un émulsifiant, c'est le 471. Du coup, il est un peu controversé aussi.
Mais lui, il n'est pas naturel, enfin, il est synthétique.
Et lui, par contre, il est sain. Lui, par contre, il est bien référencé comme E471. Mm-hmm. Mais le gluten qu'on rajoute, il n'est pas considéré comme...
C'est
à ma connaissance, aujourd'hui...
Ouais. Bien qu'on ne puisse pas vraiment acheter du gluten en supermarché soi-même, quoi.
C'est vrai, ça.
Bah oui. Ouais. Et donc, c'est pour le pain. On a compris que c'était pour le pain, surtout qu'on a rajouté du gluten. Pour ce qui est des autres produits, les sauces, où on n'a pas spécialement rajouté du gluten. On a juste mis de la farine riche en gluten,
oui.
C'est ça.
Ah oui.
Et, et même pour les aliments du style, les wraps, les galettes industrielles là, qui sont très souples, est-ce que là, il y a des rajouts éventuellement de gluten.
Là, faudrait que je regarde les compositions. Okay. Compositions. Alors après, ce qui va jouer quand on est sur la farine, c'est on n'est plus sur la protéine, on est sur le taux de cendre qui va aussi avoir un impact. C'est les types de farine. T45, T55, mais c'est autre chose et on s'éloigne du gluten.
Oui, c'est quoi? C'est l'enveloppe du... C'est pas le taux de cendre, c'est l'enveloppe du blé.
Le taux de cendre, c'est la cendre, c'est la quantité de matière sèche qui reste après qu'on ait fait cuire enfin, voilà, c'est ce qui reste en résidu. Voilà. Et
très bien.
Et donc, du coup, pour une T45, pour la farine de pâtisserie, c'est donc une T45 qui est très riche en gluten. Par contre, une farine complète... du coup, elle sera moins riche en gluten.
Proportionnellement, donc, parce qu'il y a plus d'autres matières que le gluten.
Il y a plus de résidus, et donc du coup, il y a moins de protéines.
Alors, pourquoi est-ce que c'est... Enfin, quel est l'impact? On en a parlé un peu déjà. Bon, il y a les maladies, les allergies. Et sinon, l'impact du gluten sur notre santé. Est-ce qu'on a une idée de cet impact-là? Est-ce que ça augmente le diabète? J'en sais rien, non? Sur la population générale, est-ce qu'il y a eu des études là-dessus?
Il y a eu des études. Alors après, je préférerais que ce soit les médecins qui causent de ça, qui en parlent. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des interactions par rapport à l'assimilation du sucre, etc. Mais je préfère que ce soit les médecins qui en parlent. Il y a des interactions avec les diabétiques, il y a d'autres problématiques qui peuvent se poser.
Toujours est-il que quand on est, pour réduire les risques d'allergie, ou quand on sent que le gluten provoque des eczémas, enfin quand on est à peu près sûr de ça, on peut réduire son alimentation ou voire supprimer. Est-ce que c'est conseillé de supprimer vraiment le gluten de son alimentation?
Je dirais qu'à partir du moment où vous trouvez les protéines, on peut trouver les protéines bien ailleurs que dans le gluten. Le gluten, c'est une protéine végétale, mais qui d'ailleurs ne compte pas tous les acides aminés essentiels. Donc, si nous mangeons des protéines animales, là, du coup, on a largement ce qu'il faut. Après, ce qui est important, c'est de manger aussi des féculents. Mais les féculents, c'est pas pour l'apport en protéines, c'est pour l'apport en sucre complexe.
Mmh. Alors, réduisons en tout cas notre alimentation en gluten. Et qu'est-ce qu'on peut manger, pas manger? Enfin, quelles sont les idées? Ah, Pascal entre en scène, non?
Ah non, pas spécialement.
qu'est-ce qu'on pourrait dire, Pascal? Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait... moi, je me dis quand je vais, par exemple, à la boulangerie, j'achète un pain au sarrasin. Et là, c'est intéressant aussi.
Dans lequel il y aura du blé quand même.
Dans lequel, obligatoirement, on a de la farine de blé. Mais on a un peu aussi de farine de sarrasin. Donc dans ce cas-là, quand j'achète un pain au sarrasin, je réduis la quantité de gluten que j'absorbe. Si je mange un pain toutes les semaines, un pain de froment et un pain au sarrasin, sarrasin veut dire sarrasin plus froment, dans tous les cas, pour qu'il soit panifiable. Alors moi, j'ai envie de me poser la question, et je crois que ça serait bien qu'on la pose à nos boulangers, quelle est la proportion de sarrasin
dans le fameux pain au sarrasin.
Quelle quantité de farine de froment on a substitué, et quelle quantité de sarrasin on a mis à la place. Et ça, on ne nous donne pas forcément l'info. Je trouve que ça serait intéressant de le savoir. De même pour le pain au maïs. Dans le maïs,
C'est pas du 100% maïs.
Ah non, non, pour que ça gonfle, c'est jamais du 100% maïs. Et pareil, je serais curieuse de savoir, mais posons la question à nos boulangers. Je pense que les recettes peuvent être différentes aussi. Est-ce que c'est une substitution? Est-ce qu'on enlève juste 10% de farine de froment pour mettre 10% de maïs? Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 30? Ça serait une bonne question à poser.
Nous la poserons.
Mais c'est vrai que...
Ça doit dépendre des boulangers.
Oui. Avant de parler du gluten, c'est vrai que... Enfin, moi, j'achète des pains... biologique avec plusieurs farines, mais avant qu'on parle du gluten, moi je m'étais jamais posé la question. Je veux dire, à partir du moment où on n'a pas d'allergie, d'intolérance, enfin moi je mange du gluten dans différents plats et j'ai pas de problème personnel, mais
c'est peut-être une question de dose, c'est ça en fait.
Peut-être une question de dose aussi, c'est vrai.
Le Paracels disait que c'est la dose qui fait le poison. Donc, c'est un bien grand mot, hein, mais c'est
dans les années 70, il y avait déjà ce problème de gluten, on en parlait déjà ou pas du tout?
Non, c'était le début.
C'est quand même récent.
Oui, ça date d'après-guerre, oui, 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 mais c'est...
Bah, la sélection des blés, ça date de quand, la sélection des blés pour les rendre...
Après-guerre.
Ouais, après-guerre, ça s'est venu petit à petit.
C'est venu petit à petit, c'est venu petit à petit. Donc, j'ai tant posé la question avant.
Oui.
Tant qu'on le découvre que ça fasse son chemin.
Oui.
Il y a plein d'autres aliments où il y a du... Il n'y a pas seulement le pain. Hein,
oui, alors dans les sauces, par exemple, dans les sauces, quand j'épaissis une sauce, je mets de la farine, mais je fais une dilution à froid. Dans un liquide, je mets un peu de farine, mais c'est une dilution à froid, et après je fais chauffer. Mais ça, c'est pour la farine de froment. Mais si je veux enlever la farine de froment, à ce moment-là, je mets de la maïzena, mais la dilution, du coup, se fera à chaud.
Bouillir son lait, c'est ça,
enfin, son lait, son liquide, eau, son liquide.
Et après, on met la maïzena.
Moi, je fais l'inverse pour éviter les grumeaux. Sur la maïzena, je mets du bouillon chaud, en fait, et je dilue petit à petit. Et c'est là, dans l'autre sens, ça évite les grumeaux.
Oui.
Très bien, c'est noté. Autre conseil, de Françoise.
L'amidon de pomme de terre.
La fécule,
l'amidon de pomme de terre, c'est un bon épaississant. Par contre, ce que je lui reproche au niveau sensoriel, c'est un peu d'atténuer les goûts. C'est-à-dire qu'on a un goût un peu... les intensités aromatiques du reste, en fait, les goûts deviennent plus neutres.
Hein. Ah bon, c'est pas un exhausteur de goût,
non.
C'est un désexhausteur de goût. D'accord, j'avais pas remarqué,
c'est net,
mais...
C'est net, hein.
Ouais.
Pour les gâteaux.
Ah oui, bah oui, il y a de la farine dans les gâteaux, bien sûr.
Soit je substitue une part de farine par de la maïzena, ou par une farine
de châtaigne. Moi, j'aime bien la farine de châtaigne.
T'aimes bien la châtaigne. En plus, ça donne un petit goût sucré. Oui. C'est super bon.
La farine de souchet aussi. Ça donne un goût sucré. Et oui. Pas très connue, la farine de souchet. Je vous recommande.
Ah,
la farine de souchet.
Je ne connaissais pas.
On la trouve pas partout.
Il faudrait que vous nous fassiez découvrir. Hein.
Je vous ferai découvrir.
Et donc, pour le gâteau, alors il y avait la fameuse recette de gâteau au chocolat. Sans gluten, alors la recette, elle est toute simple, c'est une boîte de haricots rouges, demi, avec une tablette de chocolat, 4 œufs, une cuillère à soupe d'huile de coco, je chauffe légèrement, du coup, je mélange tout, je mixe, je rajoute des épices et je cuis 15 minutes au four à 180.
Nous avons testé et c'est très bon.
Et donc là, zéro gluten. Et en plus, si vous avez bien tout noté, parce que je suis allée un peu vite, il y a zéro sucre rajouté. Alors, sachant qu'il y en a un petit peu dans le chocolat.
Ah oui, dans le chocolat,
voilà.
Bien sûr. Oui.
Mais bon, je ne rajoute pas d'autres sucres en plus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Par exemple, les pâtes. Les pâtes, bon, c'est peut-être pas le même gluten que pour le pain. Hein. C'est du blé dur souvent. Donc, est-ce que ça change quelque chose dans le taux de gluten? Est-ce qu'il y a moins de gluten dans les pâtes parce que c'est du blé dur? Je ne sais pas, c'est une question que je pose.
Alors oui, il y a une petite différence, effectivement, de l'ordre de 1 à 2%. Je ne sais plus trop dans quel sens. Il y a une petite différence de gluten. Oui, 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 oui. Alors est-ce que...
Et sinon, on peut manger des pâtes à autre chose que du blé. Hein. Ça existe maintenant.
Oui.
Hein. Voilà, aux pois chiches, aux légumineuses.
Oui.
Voilà.
Pas tout à fait la même texture après cuisson.
Ah oui.
C'est pas tout à fait le même goût non plus.
Non, faut être honnête. Quoi d'autre comme conseil pour réduire le gluten?
Alors,
parce qu'on a 2 minutes encore.
On a 2 minutes. À ce moment-là, on pourrait terminer sur une recette.
Oui, une petite recette très simple.
Une recette de dessert et une recette de polenta. Alors, je te laisse la parole.
La panna cotta, c'est très simple. Il faut juste 50 centilitres de crème fleurette liquide à laquelle on rajoute 75 grammes de sucre non raffiné, genre muscovado. Et puis, un sachet de sucre vanillé. On fait bouillir tout ça. Et à la fin, quand ça a bouilli, on arrête. On rajoute juste 2 grammes d'agar-agar, donc sans gluten, hein, qui est une algue, en fait. Et puis, on met dans les petits récipients, on laisse refroidir. Et quand c'est bien refroidi, on met au frigidaire 3 heures minimum et on a un délicieux dessert.
Une petite crème.
Dans laquelle on peut rajouter un petit coulis de framboise ou de mûre.
Ça ne saurait selon nuire.
Son goût. Ah, je demande à goûter, là, j'en mets l'eau à la bouche.
C'est prévu, c'est prévu.
Et on peut faire aussi un gâteau de polenta. Alors ça, c'est plutôt en plat principal. Donc dans un moule à cake.
Donc polenta, c'est la semoule de maïs.
C'est de la semoule de maïs. Donc je prends 170 grammes exactement, que je fais cuire pendant 10 minutes dans un litre de bouillon, de légumes. Et donc c'est rapide à faire. Après, je rajoute du parmesan, 3 cuillères à soupe, 2 poignées d'olives vertes et des tomates séchées, 5-6. Et bien, c'est tout. Je mets dans un moule. La polenta, la semoule de maïs a cuit 10 minutes avant. Je laisse refroidir. Je mets au réfrigérateur. Et ensuite, on tranche.
Ouais,
et on passe à la poêle. Je mets au réfrigérateur une heure, de façon à ce qu'il y ait une prise quand même. Mais c'est rapide. Hein, et c'est ce qu'on va goûter tout à l'heure aussi.
Oh, un festin.
Les auditrices et les auditeurs.
Déjà l'eau à la bouche.
Voilà. Bon, ouais, on va vous remercier toutes les deux. Et on retrouvera l'association 4-4 très prochainement dans l'EM, bien sûr. Et dans un instant, c'est la deuxième partie de l'EM avec encore deux invités qui, elles,